le Max Sport avec Loïc Colombier.
Et bonjour chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour Automax Sport du 29 mars 2019. Alors aujourd'hui, à situation exceptionnelle, Max Sport exceptionnel, puisque ce dimanche il va y avoir le gros match qu'on attend depuis très longtemps à Radio Albigès, parce que bon, on se régale à commenter la Fédérale 1, mais on aime bien qu'il y ait des matchs un brin piquant. Et ce week-end, on va faire un gros déplacement puisqu'on va en terre basque à Saint-Jean-de-Luz pour accompagner le Sporting dans son opération Romentada en Pro D2, dans un match qui va opposer les leaders albigeois à nos amis basques du Saint-Jean-de-Luz Olympique Dauphin du Sporting Club albigeois, de nos abeilles jaunes et noires. Alors ce match est tout l'albigeois depuis deux semaines en salive d'avance parce que ça va un peu frotter, il va y avoir un brin d'enjeu, quoique pas tant que ça parce que sportivement les deux équipes sont bien ancrées et assises à leur place. Les Basques peuvent toujours revenir dans les talons des albigeois, mais bon, il y a quand même 14 points de débours avec 3 matchs restants, donc 15 points possibles à prendre. Donc grosso modo, les albigeois pourraient pas se faire rattraper à part catastrophe industrielle. Mais ce match a des petits airs de phase finale. Ça commence à sentir le soufre. Et avec mes amis Vincent Clément, Arnaud Schmitt à la technique et peut-être un invité surprise, en l'occurrence Samuel Faux, on va prendre un grand plaisir à commenter ce match qui risque d'être une belle fête du rugby, une belle fête de l'Ovalie. Et puis, espérons-le, un beau galop d'essai pour ces deux équipes qui vont bientôt voguer en quart de finale d'accession en Pro D2, avec des ambitions bien sûr diamétralement opposées pour les deux clubs, mais beaucoup d'attentes au niveau des supporters, des aficionados, parce que qu'on le veuille ou non, le rugby ne se fait pas sans le 16e homme. Allez, on va se mettre déjà dans le bain hein, de ce futur choc dimanche à 15h en direct sur Radio Albigès, www.radioalbigès.com ou www.le-mag-sport.com ou alors bien sûr la FM 95.4 104.2 pour les Tarnais. Donc on va de suite se mettre un peu dans l'ambiance avec notre jingle basque. Gaturi daukagu dolarre alde zemateko Eusko gudariak era Euskadi askatzeko Gaturi daukagu dolarre alde zemateko Eh oui, on y est quasiment déjà en entendant ce son typiquement basque. On fleurbonne déjà les saveurs du Pays basque. Et comme je vous disais en introduction, on a hâte d'y être. Alors, les joueurs d'Arnaud Mella ont eu deux semaines pour préparer ce choc. Alors, de nos échos, il a fallu que Papa Mella et Tonton Mathieu André, le capitaine, des fois poussent un peu la gueulante parce qu'il y avait des petits coups de mou à l'entraînement. Mais on va dire que c'est salutaire et ça fait partie de la vie d'un groupe. Mais on sent quand même un Sporting depuis quelques semaines déterminé, focus sur ses ambitions, sur cet objectif remontada et qui est un objectif qui est impérieux pour le Sporting Club albigeois, puisque en cas de non-montée, on le sait, le président Romain Gouz s'en cache pas, la SASP mettrait la clé sous la porte, ce qui voudrait dire la fin du professionnalisme en albigeois. Donc les joueurs ont la balle en main, c'est bien logique pour des rugbyman, mais là ils ont un objectif collectif qui est encore plus grand que la saison passée, puisque la saison passée il y avait cet objectif de remonter, mais ils savaient que s'ils ne remontaient pas derrière, bon, la vie continuerait son petit train-train en albigeois avec le même coach, avec le professionnalisme qui restait. Donc bon, c'était pas non plus un écueil insurmontable. Là, on le sait, Arnaud Mella, en cas d'échec, tirera sa révérence, hein, parce que c'est un honnête homme, hein, Arnaud Mella, il a des valeurs, il a de l'honneur, et donc pour lui, il estime que en cas de non-montée, ce sera un échec personnel, et on ne peut que lui tirer notre chapeau. Donc les joueurs, elles, savent là maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Ce match va donner le ton de ces phases finales, les sponsors, les supporters, toutes les autres équipes vont regarder d'un œil très attentif, je dirais même écouter, puisque le match sera pas télévisé, donc vont écouter d'une oreille attentive ce que va faire le FCA. Une désillusion au Pays Basque ne serait pas rédhibitoire, mais donnerait des signaux très très négatifs pour les phases finales. Donc on va se diriger vers notre coach occitan, qui a fait une petite incartade à Brive pendant quelques années, mais qui a des vraies racines occitanes, pour écouter la traditionnelle conférence de presse d'Arnaud Mella, en compagnie de nos confrères de Radio 100% Laurent Batigne, de Guillaume Courveil du Tard Libre, et bien sûr de nos amis du site des bénévoles du SCA.
C'est une marche de plus, ouais. C'est un match important pour nous, pour tout le monde. Je pense que c'est un match important aussi pour Saint-Jean de Luz. Donc voilà, on va avoir sûrement notre match référence, au moins dans l'intensité avant les phases finales. Et ça va être un match à haute intensité physique, je pense. On va pouvoir à peu près voir où en sont aussi les joueurs physiquement, puisqu'on est en plein développement physique. Donc voilà, match important, il y a eu une bonne semaine de travail, les joueurs sont très impliqués, on voit bien qu'il y a une petite pression qui monte par rapport à ce match, donc voilà, c'est bien, ça monte.
Malgré tout, il n'y a pas un enjeu sportif énorme.
Mais l'enjeu sportif, il n'y est pas trop, c'est perso, c'est pour nous, c'est pour l'équipe, c'est pour nos supporters et nos sponsors, c'est important pour ça. Après, c'est vrai que sur le plan comptable, ce n'est pas un match qui changera la donne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir au moins voir où on en est sur un match où il va y avoir du rythme, je pense, parce qu'il va faire beau et ils vont nous jouer. Donc, on va avoir à gérer d'autres problèmes qu'on a eu à gérer depuis 3 mois.
Et au niveau effectif, tu as ton équipe type qui va être alignée ou toujours pas? Tu caches encore ton jeu?
Non, mais là, on a eu 2-3 petits soucis physiques. Donc, oui, ça s'en rapproche. On va tourner sur un groupe de 26-27 joueurs. Donc, là, on est dans le groupe de 26-27. Là, on a une petite blessure hier soir. Donc, on a fait un changement de dernière minute. Mais sinon, oui, bien sûr, le groupe, il est à 3-4 joueurs près. On est dans le truc, quoi.
Éric Béchu aurait dit pour certains matchs que vous avez joué que c'était des matchs cacolac. Là, c'est un peu un match à haute intensité avec l'adrénaline qui a monté. Ça va faire du bien pour préparer les phases finales parce que bon, ça manquait de respect à Valence ou à Marmande ou alors à Anglette qui était venu en tongs. Là, il va y avoir un véritable défi.
Ouais, c'est des matchs différents. Valence nous a proposé pas mal de défis physiques avec des joueurs solides. Marmande encore plus. Donc, ça nous avait. Voilà, il y avait beaucoup de collisions dures. Saint-Jean-de-Luz, c'est pas le profil de l'équipe, c'est une équipe qui déplace beaucoup, qui joue beaucoup. C'est une équipe qui est capable d'enchaîner des séquences à 10 temps de jeu, avec un peu de désordre, un peu de folie, un peu de. Je pense que c'est la seule équipe de la poule qui est capable de faire ça. Mais oui, ça va nous servir pour la suite, c'est sûr. C'est une équipe qui va être sûrement qualifiée, donc voilà, on va pouvoir avoir à peu près le niveau d'un quart de finale, quoi.
Un petit mot sur ton homologue, Éric Balader. Certains l'appellent le sorcier du Pays Basque parce qu'il fait des miracles avec ce groupe.
Ouais, il a une bonne philosophie de jeu. Il a adapté par rapport à son équipe le jeu qui était le plus adéquat. Il a une équipe qui n'est pas très solide, pas très grande, pas très. Voilà, c'est une équipe qui est adaptée pour jouer au rugby et jouer dans le désordre. Et je sais qu'il excelle dans cet entraînement-là, donc voilà, c'est bien ce qu'il fait.
Et cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, beaucoup de suiveurs de la Fédérale 1 la trouvent admirable, parce que beaucoup moins de budget que Albi, que Roval, que Rouen, ou même que Dijon ou Bourgoin, et ils arrivent à soulever des montagnes. S'il y avait un truc à piocher chez eux, c'est cet état d'esprit de gagneur. On les avait vus à la fin du match au Stadium, ils avaient perdu, mais on aurait dit qu'ils avaient perdu la vie quasiment tellement, ils étaient dégoûtés, ils avaient la rage.
Ouais, ils étaient dans une grosse dynamique positive aussi quand ils étaient venus chez nous. Là, ils sortent d'un mois et demi plus compliqué quand même. Ils ont été un peu mis à mal. Donc, comme toute équipe, la confiance est un peu moins là, donc ça passe un peu moins bien. Les rebonds sont moins favorables, les passes sans regarder arrivent un peu moins. Ça, c'est souvent comme ça, c'est une des dynamiques positives ou négatives. Après, ouais, c'est admirable ce qu'ils font parce qu'ils s'entraînent que 2-3 fois par semaine le soir et qu'ils ont des joueurs sûrement tous plus réactifs. Mais c'est un groupe, on le voit, c'est un groupe soudé, c'est un groupe aussi de potes et ils se viennent les uns pour les autres. Ça a toujours ses limites par rapport à un jeu plutôt structuré et plus penché vers le professionnalisme, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui pose des problèmes à tout le monde.
Alors, on avait vu le Sporting dans des contextes hostiles, Baïgorry, le stade d'Oloron, ça avait été assez compliqué. Tu penses que c'est une des recettes de ces deux clubs pour vous avoir fait chuter, et est-ce que tes joueurs ont pas un peu, on va dire, la pétoche quand ils arrivent dans ces contextes-là?
Non, mais là, je suis convaincu que si on avait joué à Oloron aujourd'hui ou à Baïgorry, le match aurait été tout autre. Hein. C'était les contextes surtout de climat et de météo. Après, il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu. Hier, Saint-Jean-de-Luz, ça sera un match totalement différent. On sait que celui qui va gagner, ce sera celui qui sera le meilleur rugby. Hein. Il n'y aura pas de. Voilà, ça ne va pas se jouer. Il y a un bon arbitre pour ce match. On n'a pas de soucis. Les voyants sont ouverts pour les deux équipes. Ça va être un match ouvert. Hein. Il va y avoir du spectacle. Donc, rien à voir avec le match.
Je parle du 16e moment, des supporters. Moi.
Ouais, bien sûr. Ah ben là, c'est sûr qu'il va y avoir de l'ambiance, ça va être plein. Mais ça, c'est pour un joueur, c'est que du positif. De jouer devant 5, 6 000 ou 4 000 gens très énervés après toi, moi, ça me stimule. Hein. Donc, ça, c'est que du positif. Après, c'est pas du tout le même contexte. Ça va être un match de gala sûrement pour eux, parce que je sais qu'ils ont fait pas mal de com' autour de ce match. Mais à nous d'aller faire un gros match, une grosse prestation, et puis on fera le point à la fin.
Hein. Hier, il y avait un Brive-Nevers à haute intensité en Pro D2. Ça a pu peut-être donner à toi et tes joueurs l'étendue de la marche à gravir pour arriver à ce niveau Pro D2, parce que la Fédérale 1 est un championnat qui se respecte, mais bon, en termes d'intensité, surtout en plus avec le calendrier qu'il y a, c'est pas du tout la même chose. Là, il y a ces deux mondes qui s'affrontent.
Ah ben là, nous on est haut de tableau Fédéral 1, et là c'était le haut de tableau Pro D2, quasi top 14, donc bon, c'est sûr qu'il y a un trois quarts de niveau d'écart, donc c'était un match très important hier, on l'a bien vu, il y avait beaucoup de pression sur ce match, et on a bien vu que c'était deux équipes, le top 14 s'est sûrement joué là pour eux, l'équipe qui allait gagner allait sûrement finir première, donc je pense que Brive a pris un petit peu d'avance sur les autres. Ils ont fait passer un message aussi pour toutes les équipes qui les ont encore en poule ou en calendrier. Quoi. Oui, c'était un match de haut niveau, il y a eu beaucoup d'intensité, proche d'un match de top 14. Ça a tapé fort et c'est sûr que c'est stimulant. Et puis les joueurs regardent les matchs de rugby et on est un peu dans cette position-là aussi, où c'est le premier contre le second qui se rencontre pour nous aussi. Donc il faut qu'on se serve de l'implication qu'avaient mis les brivistes sur ce match et l'énergie qu'ils y ont mis pour essayer de reproduire de près un match similaire à Saint-Jean-de-Luz.
Alors, il y a eu la semaine dernière la DNCG amateur qui a rendu ses jugements en parlant des bonus administratifs. On a vu que Nice en appel avait été épinglé, donc quasiment il rentre au stand et ça fait à moins d'un miracle un adversaire de moins pour le Sporting. On a entendu l'entraîneur de Dijon pousser un coup de gueulante, même les entraîneurs de Grasse pour le maintien, parce que les équipes qui vont affronter Nice maintenant, ça force un peu le championnat. Toi, t'en penses quoi?
On a eu les mêmes soucis l'année dernière, hein, C'est sûr, c'est préjudiciable pour les équipes qui sont en concurrence avec eux, qui vont jouer des matchs contre Nice. Je ne sais pas comment va réagir le groupe. On est loin de deux, donc on n'a pas trop d'écho, mais je pense que c'est toujours difficile pour des joueurs qui y croient jusqu'à trois pas de la finale et puis t'as rien, quoi. Donc les joueurs vont prendre un coup sur la tête. Hein. On l'a bien vu, les Tarbés, ils ont eu ce souci-là derrière ça s'est enchaîné négativement. Donc c'est sûr que il y a ce côté-là qui est un peu négatif dans cette fédérale. On le savait d'avance, donc il n'y a pas grande surprise. Pour nous, ça nous fait. On sera sûrement à Bourouin ou Dijon.
Après, ça peut un peu fausser quand même le classement national.
Mais ouais, ça fausse plein de choses. Mais quoi faire pour l'anticiper? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là-bas. Nous, on verra. Nous, on prendra ce qui nous viendra. Et puis, on se prépare pour quoi.
Vous pouvez prendre Saint-Jean-de-Luz, c'est encore possible.
Oui, c'est faisable, mais la tendance partirait, ouais. Vu le tableau et vu les matchs qui restent à jouer.
Et que les autres perdent.
Voilà, on ne va pas dire, mais je pense que ça sera au Dijon au bout. Hein. Mm-hmm.
Et en termes d'intention pour ce match face à Saint-Jean-de-Luz, qu'est-ce que ça va être le mot d'ordre? La balle allait, la vie est belle avec le beau temps et une équipe joueuse.
Ah, là, ben, non, le mot d'ordre, ça va être une grosse intensité de la discipline.
Okay.
C'est ce qui nous a coûté cher dans le Pays Basque.
Merci Arnaud. La compo, s'il te plaît.
La compo, numéro 1, Bastien Dedieu. Numéro 2, Arnaud Feltrin. Pato et tout en 3. Jérôme Dufour, Mathieu André, capitaine en seconde ligne. Troisième ligne, Vincent Calas, Simon Pardacti et William Witton. À la mêlée, Martin Douan. Jérémy Russell. Au centre, Gaëtan Bertrand et Lucas Vaccaro. Aux ailes, Louis Decrop, Thomas Lasselle. À l'arrière, Benji. Remplaçant, Swan Cormenier, Zaza Navrodashvili et Romain Cazal. Mohsen Essid, Paul Faré, Kevin Boulogne, Benoît Sicard et Simon Inamaro.
Martin Douan, titulaire, ça vient de quoi? De blessure de...
Martin était remplaçant et Thibaut, hier soir, il s'est fait une élongation à la cuisse. Donc, il n'a pas pu... ce matin, on l'a testé, il ne pouvait pas faire. Donc, Martin était remplaçant, il passait titulaire.
Ok, merci.
Il est récompensé du travail qu'il a effectué pendant 3 mois. Et, donc, voilà.
Et Laurent Magnaval?
Laurent Magnaval était en groupe et donc, on a fait le choix de rentrer la SIC en remplaçant et Kéké qui va couvrir 9-10.
Ok.
Alors, pour finir d'étayer le propos de notre berger bigourdan, Arnaud Mella. Donc, au rayon des blessures, on a Tounou Tavella qui est une légère blessure aussi. Alfie Maffi, donc Thibaut Bisman, comme vous l'avez entendu, ça a été un peu la douche froide pour lui et pour le club, puisque hier, il a subi une petite alerte, mais bon, rien de bien grave. On a aussi le Russe, Ruslan Boukerou, qui est malheureusement... à l'infirmerie puisqu'il a une hernie qui est sortie dans le dos. Et donc, comme vous l'avez entendu, ça sera Martin Douan qui va suppléer Thibaut Bisman et qui va pouvoir essayer d'aller se gagner ses galons dans le groupe. Et le petit jeune, le petit minot du groupe, on espère que le petit Martin, il va porter haut et fort les couleurs de la formation albigeoise, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un des petits qui sort de la formation albigeoise. Au rayon blessure aussi, on a Toux Wassinibu qui a une petite contracture, mais bon, rien de bien grave suivant Arnaud Mella. Pour le moment, il ne pense pas avoir de joueurs sur le flanc pour les phases finales. Mais bon, ne portons pas la choumoune et la poisse au Sporting Club albigeois, parce qu'on le sait, les infirmeries caisses vides se remplissent très 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 vite, et on espère que lors des 3 derniers matchs, il n'y aura pas trop de casse et que les abeilles jaunes et noires pourront s'avancer vers les phases finales, sûrement vers Dijon ou Bourgoin. Bon, nous on aurait un petit côté affect pour aller faire un tour à Dijon, dire un petit coucou à Romain Bruno, notre consultant. Mais quel que soit le match, on espère que le Sporting arrivera avec toutes ses armes. Alors, pour faire un match et pour faire un beau match, il faut être deux. Là, la seconde équipe, c'est une équipe en... on l'aime bien, nous, Radio Albigeoise, parce qu'elle nous a donné du plaisir au stadium. Puis, depuis le début de saison, c'est notre équipe coup de cœur. C'est le SJLO, le Saint-Jean-de-Luz Olympique. Et bien sûr, on s'est rapproché du club. On est allé voir le coprésident de ce club, monsieur Bonacera, le sympathique monsieur Bonacera, qui est, on n'en doute pas, nous accueillera avec grand plaisir dimanche à bras ouverts. Et dans ces terres basques où on sait que ça respire le rugby à plein poumon, où la troisième mi-temps est souvent assez joviale, et puis on aura un grand honneur d'aller découvrir ce stade du pavillon bleu entre mer et montagne. Allez, on va partir direction le Pays Basque.
Mandi kogi sonai,
o baba ese gume si diama,
Euskadi eneria da. Nor sarà,
eo socorre su,
lungua sarà,
vengo d'un paese solo,
senda sureria te insena,
o mio paese gli è corsica.
Sebo
Allez, on a le président du SJLO et du Saint-Jean-de-Luz Olympique, enfin le co-président, monsieur Bonacera, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Bonacera, là, on est à quelques heures du choc de cette 20e journée fédérale 1. Hein. La rencontre entre le Sporting Club Albigeois et vos joueurs du SJLO. On imagine que vous allez mettre les petits plats dans les grands, parce que ça va être une véritable fête du rugby, ce match.
Ben oui, disons que ça me fait toujours drôle quand j'entends le deuxième qui reçoit le premier, parce que effectivement, en début de saison, on aurait signé dès demain pour être dans cette position de qualifiable, entre guillemets. Mmh. Et donc, on est le beau temps se prétend au jeu. On nous annonce un très beau week-end cette fin de semaine. J'espère qu'on pourra voir de belles équipes et beaucoup de monde au stade du Pavillon Bleu pour voir les Albigeois et les Lusiens.
Alors, vous êtes quand même un peu les petits poussés de ces quarts de finalistes, parce que Saint-Jean-de-Luz va pouvoir participer au quart de finale d'accession. Alors, première question, est-ce que ce statut de petit poussé, il vous sied à merveille? Et est-ce que vous avez de l'ambition d'aller le plus haut possible dans ces phases finales et qui sait aller décrocher un titre de champion de France?
Disons que nous, on est très heureux d'être qualifiés, puisque ça s'est passé réellement au niveau sportif. Et donc, si on arrive au bout, on termine deuxième. On n'a pas terminé dans les meilleurs deuxièmes, donc on risque de tomber sur un très gros morceau.
Rouen.
Nous sommes très lucides. Rouen, ou peut-être même Valence, Roval.
Oui.
Parce qu'il va y avoir une péréquation, il va y avoir des points en plus. Donc,
bien sûr.
Parce qu'ils sont que 11 dans la poule.
Tout à fait.
Bon, Rouen, on a déjà donné. On sait à quoi s'attendre. On les a rencontrés 4 fois la même saison il y a 2 ans. Donc, c'était pas terrible. Bon, on est à notre niveau. On restera à notre niveau, il n'y a pas de souci. Si sportivement on arrive à faire un ou deux exploits, on sera très très heureux. Néanmoins, on est lucide et on sait très bien que les 7 clubs qui vont se qualifier en même temps que nous sont normalement paramétrés pour espérer aller le plus loin possible et sûrement essayer de monter. Donc, nous, on n'a pas cette ambition-là. On a l'ambition de prendre du plaisir comme d'habitude et de faire le mieux possible, de pratiquer notre rugby. Voilà. C'est la seule ambition aujourd'hui. On est très content de finir parmi les 8 premiers clubs de la meilleure division amateur du pays.
Voilà. Bien sûr. Et on l'a vu, entre autres, quand vous êtes venu au Stadium, cette équipe, le SJLO, pratique un très très beau rugby avec, entre autres, Eric Balader à la manœuvre, un coach qui, de mon avis personnel, a un grand avenir. Mais il y a aussi un certain supplément d'âme. On l'avait vu contre Albi, après la défaite face à Albi, vos joueurs, ils étaient vraiment déçus. Ils ont la hargne, ils ont la grinta, comme on dit des fois au football. C'est ça aussi qui vous a permis de soulever des montagnes?
Je pense. En fait, quand nous sommes arrivés, mes deux collègues, président et moi, il y a 4 ans, on a récupéré un groupe meurtri qui a su se rebâtir sur les cendres de la descente. Mmh. On a réussi à attraper la première année donc de Fédéral 2. Ce groupe, même si beaucoup déjà ont arrêté de jouer, il y a quand même un ciment qui s'est créé de l'époque, avec les allers-retours chaque année de quelques joueurs, mais le noyau est là, tout le monde se connaît. Tout le monde a envie de faire bien, ils se connaissent, effectivement, à travers les entraînements, les deux entraîneurs, Eric Balader et Nicolas Esquerdo, on pratique un rugby qui est somme toute assez plaisant à voir, qui plaît bien même en déplacement. On est un peu fou aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on a perdu peu de matchs, mais on aurait pu en perdre beaucoup, beaucoup moins aussi, notamment à Valence, à Valence d'Agen, à Marmande, excusez-moi, à Marmande on perd un match un peu inutilement, nous perdons la dernière journée contre Anglet, on se demande encore comment, mais parce que des fois on ne sait pas tuer le match et on joue trop. Bon, maintenant on est lucide, on sait que Albi est en position de bataille pour accéder à la Pro D2. Même si Albi a eu quelques soucis en venant sur la côte basque,
oui.
Les deux premières fois, là ils sont paramétrés pour activer sur les quarts de finale et mieux, quoi. Donc on sait très bien que le groupe albigeois va montrer ses forces. Voilà. Donc on est très lucide. Après nous on joue, on changera pas, on joue. Donc c'est ce qui fait notre charme, notre force un peu. Et après on a la grinta effectivement un petit peu de vouloir gagner, de vouloir faire le mieux possible, ne pas être ridicule.
Comme pour résumer, voilà. un petit grain de folie du jeu et la grinta, c'est quand même ce qui plaît aux spectateurs, ce qui plaît dans le rugby, c'est le rugby qu'on aime. Hein. Comme je le disais l'autre jour en semi-off avec un membre du staff du SCA, des fois je me régale plus à voir de jouer des équipes comme Saint-Jean-de-Luz que l'équipe de France, parce qu'au moins il y a de l'intuition, c'est le rugby instinctif.
Ouais, il y a du jeu. Après, bon, on va pas se comparer à l'équipe de France.
Bien sûr.
Mais même en regardant la Pro D2, des fois on s'embête, quoi. Hein, oui. On peut pas dire autre chose. Il y a pas beaucoup de jeu. Notre manque de physique, entre guillemets, notre manque de Golgoth devant et derrière fait que si on n'a pas un peu de panache à jouer tous les ballons, mais on risque pas de gagner. Alors de temps en temps, ça nous joue des tours. Mais c'est la meilleure façon de prendre du plaisir en jouant au rugby, quoi. Hein, c'est de faire vivre le ballon. Il n'y a pas que de la folie, les gars se connaissent et travaillent depuis 5-6 ans ensemble maintenant, donc ils se connaissent. Quoi. Donc voilà, on a un groupe qui arrive à la maturité, qui n'est pas trop vieux, hein, et on n'a aucun étranger, et voilà quoi, on travaille que des gars du Sérail. De temps en temps, comme on a jamais eu un 2 mètres au club, on s'est content de voir débarquer un 2 mètres qui a envie de travailler au Pays Basque, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, quand j'ai vu sortir votre pack au match aller, je suis resté...
Ah oui, c'est épais.
Ah oui, c'est très épais, avec 3-4 types au-dessus des 2 mètres et des piliers surdimensionnés. Bon, voilà. La grosse différence entre nos deux clubs, c'est que quand vous voyez l'entraînement de Saint-Jean, vous ne savez pas qui est deuxième ligne, qui c'est qui est arrière.
Ouais, mais c'est ce qui fait votre charme aussi. Et c'est comme ça que, comme on vous aime, cette équipe Saint-Jean-de-Luz, ça fait partie de la poule 2 des équipes un peu coup de cœur et qui ont réussi à transmettre quelque chose. Et, tout comme on a Faroua aussi dans notre registre et qui joue le maintien. Ouais, mais c'est des équipes qui arrivent à transmettre une certaine adrénaline quand on la voit jouer, une certaine étoile dans les yeux.
Faroua, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein. Ah, oui. Et c'est dommage parce que avec un nombre important de victoires, ils ont du mal à sortir de la zone rouge. Quoi. Donc c'est dommage parce qu'ils font eux, c'est vraiment la grinta, voilà.
Ah oui. J'en ai encore des frissons de les entendre chanter Egoac à la fin de la victoire contre la SCA. C'était un moment magique. Je pense que ça se souviendra tous, qu'on soit de la poule 4 ou la poule 1 ou de la poule 2 ou même la poule 3, tout le monde se souviendra de que Nafaroa a fait quelque chose de magique à la rentrée hivernale.
Ouais, tout à fait. Tout
alors,
à fait.
On est là pour parler de Saint-Jean-de-Luz. Parlez-nous un peu de ce pavillon bleu, de ce stade où on s'attend à un contexte hostile, mais hostile dans le bon sens du terme. Hein, on n'est pas au foot. Quand je parle d'hostile, de supporters enfiévrés qui supportent leur équipe jusqu'au bout dans l'esprit du rugby. On a raison de s'attendre à ça ?
On a un public de plus en plus fidèle, de plus en plus nombreux, parce que effectivement il y a du jeu. On a récupéré des gens qui viennent un peu de partout, du dorénavant, donc de Bayonne, de Biarritz et alentour, parce que voilà, on a une autre petite image de marque dans le coin.
Bien sûr.
On a un public jamais hostile, parce qu'on n'est pas. C'est tranquille quand même. D'accord. Mais bon, on a un noyau de vrais supporters qui tapent sous les tambours et qui font du bruit, qui supportent à l'extérieur comme à la maison. Je les remercie
bien sûr.
Toujours parce qu'ils sont vraiment. Bon, c'est sympa, mais c'est toujours dans la bonne ambiance quand même. Franchement, voilà, il n'y a personne qui peut dire qu'il a été mal reçu à Saint-Jean-de-Luz.
Comme je disais, quand je parle d'hostile, c'est le bon sens du terme, dans le sens un peu chaud, enfiévré.
Ils vont montrer qu'ils sont là et on va montrer qu'on est là, mais dans le respect des suiveurs albigeois et de l'équipe d'Albi, hein, et de M. Mellard, il n'y a aucun souci.
Bien sûr, on n'en a jamais douté. Alors, ce stade du pavillon bleu, il fait combien de places c'est un stade, vous pouvez nous le décrire un peu parce que c'est la première fois qu'on va y débarquer, nous.
Ah ouais. Bon, c'est un joli stade quand même.
D'accord.
Pas un grand stade. Très bonne pelouse, deux tribunes. Une de 1500 places et une de 800 places. Une piste d'athlétisme autour qui nous éloigne un petit peu quand même du jeu.
Ah, elle ne sera pas du pays du stadium alors.
Ouais, bah, exactement. Après, très joli stade, bien plus petit que le vôtre, mais bon, assez typique, assez champêtre, avec des montagnes au loin. Bon, assez sympa, voilà. Assez sympa. C'est pas la dernière merveille, mais on est assez fiers de notre ensemble, notre stade.
J'en doute pas, et j'imagine aussi que le match va se dérouler à guichet fermé.
écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de demandes. Par exemple, il y a un repas qui est prévu pour les partenaires et les supporters avant match, et en fait, on a été un peu débordés, puisque dès le premier jour, il y a eu toutes les places ont été prises, donc on a dû rajouter quelques toiles de tente pour agrandir un peu. C'est effectivement, j'ai l'impression qu'il y aura des monde. Après, guichet fermé, ça fait longtemps qu'on l'a pas connu. Donc le club de Saint-Jean a une grosse histoire au niveau rugbystique. Hein, donc il y a eu Saint-Jean-de-Béziers où il y a des photos historiques où il y avait vraiment beaucoup de monde. Bon, on a quand même du monde qui va venir. On se rappelle quand même que quand on a joué à Bayonne contre Anglette, quand on les a reçus, on a fait 5000 personnes. C'était magnifique, on était contents. Bon, si on faisait le dimanche 3000 personnes, on serait heureux. Quoi. Voilà. Allez, très bien. Après, avec le beau temps, j'espère qu'il y aura, du monde. Ça, et puis, il n'y a pas trop de grosses affiches autour, donc ça va aussi. Voilà.
Allez, on va revenir un brin sur le sportif. On a vu que malheureusement, vous avez perdu le derby basque, un grand moment dans votre saison. Alors, on était un peu surpris parce que nous, on avait vu des Anglois venir un peu en tongs, voire en espadrille au stadium, et ils avaient un peu lâché le match. Et quand on a vu le résultat.
Ouais, d'ailleurs, j'avais écouté quelques commentaires, vous avez trouvé ça là.
Un peu, mais bon, c'était la déception parce qu'on s'attendait à avoir un beau match entre le premier et le troisième. Et on avait intéressé sur le centre-fin parce que bon, il n'y avait qu'une équipe qui avait joué sur le terrain et c'est pas très agréable et à commenter et à suivre, même pour les supporters et même pour les joueurs d'habillés qui n'avaient pas pris du plaisir face à des joueurs qui n'avaient pas envie d'aller au défi. Et donc, bon, on a peut-être été un brin sévère, mais bon, qui aime bien châtie bien, comme on dit. C'est parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux de cette équipe d'Anglette qui nous avait fait trébucher à l'aller. Donc, est-ce que déjà, première question, est-ce que vos hommes sont remis de cet échec dans le derby? Parce que c'est un moment clé de votre saison, un derby, on le comprend bien.
Franchement, je serais malhonnête de dire qu'on n'aurait pas aimé gagner. Mm-hmm. Mais c'était un match comme les autres. Alors, derby, alors si on veut, mais le match aller, on l'a gagné. Mm-hmm. L'an dernier, on les a éliminés aussi du championnat. Pour verser en huitième de finale, donc c'était contre eux. Le palmarès des deux clubs n'est pas le même, l'histoire des deux clubs n'est pas le même. Bien donc sûr. Anglette, on les respecte beaucoup. Bon, ils nous ont battus, effectivement. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ça fait partie des matchs qu'on n'aurait jamais dû perdre, techniquement, vu ce qu'on a produit comme rugby ce jour-là. Voilà. Donc, effectivement, on était vexés de ça. Pas après les Anglois, mais après nous-mêmes. Quoi. Voilà,
bien sûr.
Puisqu'on les a quand même un peu dominés. Je fais attention à ce que je dis, je veux pas paraître l'humilité, bien il faut sûr. La garder.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais, je voulais juste finir en disant qu'on méritait pas de gagner sûrement ce jour-là. Parce que ce qu'on a dominé, on aurait dû gagner. Voilà. Donc il n'y a rien à dire. Mais après, franchement, bien sûr, ça fait râler de perdre 2 points au dernier moment. Mais bon, ça va. Hein. Nous, on est qualifiés peut-être en quart, donc on est contents. Quoi. Voilà. C'est déjà... Ça sera anecdotique pour la défaite contre Anglette. Voilà.
Et puis maintenant, ces phases finales, c'est que du bonus. Vous allez pouvoir participer à une belle aventure humaine qui va être la récompense pour tout le groupe.
Oui, exactement. On est contents. On sait qu'on est à la fois contents et on sait aussi qu'on est très lucide sur ce qu'on pourra faire. Il est évident qu'avec des ogres comme Rouen... Bon, Rouen est paramétré pour la Pro D2. Nous avons eu la chance et l'honneur de les avoir dans la poule et de les rencontrer en 16e il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc on les connaît bien, c'est déjà calibré au-dessus de nous. Ils sont performants avec un président qui a fait ce qu'il fallait et un coaching sportif magnifique et avec beaucoup de moyens. Donc voilà, on est très lucide. Si on tombe contre Rouen... Je vois pas qui pourrait parier sur nous.
Après, dans toute phase finale, il y a toujours une surprise, un petit poussé qui fait trébucher en gros. Ça pourrait être sur vous que ça tombe.
Sur un aller-retour, j'aimerais bien que ça tombe sur nous, mais sur un aller-retour, c'est compliqué. Il y a 2 ans, on a goûté déjà, il avait fait ce qu'il fallait pour nous éteindre dès le match aller, qui se déroulera de toute façon chez nous. Mm-hmm. Et après, je peux vous dire que le match retour, c'est long, hein, entre le voyage, hein, très éloigné. La logistique et tout, et le manque et le fait qu'on peut pas se qualifier, ça fait voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr de tomber contre quand même. Attendons de voir, et puis on prendra qui il faudra, et puis on essaiera de jouer. On jouera crânement notre chance dans tous les cas à la maison et à l'extérieur. Il y a pas de souci.
Bon, eh bien, on se donne rendez-vous dimanche, espérant que ça soit. Oui. Et on en est sûr, une belle fête du rugby, comme on le disait en introduction. Oui. Même sur la télé, on arrivera à faire une belle fête, j'imagine.
Oui, tout à fait. Non, mais en plus, ça va être sympa parce que. Je vous dis, si le temps reste au beau fixe comme ça, vous serez content de venir nous voir. Voilà.
Oh, mais dans tous les cas, on sera content d'aller faire un tour au Pays Basque. On sait qu'on est toujours bien accueillis.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
On vous remercie, M. Mantira. À dimanche.
Au revoir.
Toujours sympathique, ce président Bonacera, il a la bonne humeur qu'il porte sur lui. Ça nous donne vraiment le ton de ce match, comme je me répète un peu, mais on sent que ce match va être un beau match de rugby, mais dans une ambiance assez festive, avec le beau temps, puisqu'ils nous l'ont... avec le beau temps et entre autres... un public surchauffé et des supporters albigeois qui vont venir avec un bus entier pour venir au soutien dans les RUC. Ça, c'est la bande à Reynald Brunet du comité d'animation du SCA qui est à la manœuvre et qui, dès 7h du matin, partira du stadium municipal pour aller voguer vers le Pays Basque et venir soutenir nos abeilles jaunes et noires. Donc maintenant, la balle est dans le camp des joueurs. C'est à eux de faire le taf, de nous en mettre plein les mirettes. Nous, on essaiera de vous le commenter avec Vincent Clément, Samuel Faux et Nono Schmitt à la technique du mieux qu'on peut pour essayer de vous faire vivre ce qui, pour nous, est une petite renaissance à cette Fédéral 1 où on s'est, passez-moi l'expression, quelquefois fait chier. Et là, on espère qu'on va un peu exalter, on va être un peu... en transe face à ce match que j'ose appeler un petit huitième de finale. Allez, je vous donne rendez-vous à 14h45 pour être en direct du Pays Basque. Allez, maintenant, on va passer à la dernière partie de notre Maxport avec toujours du rugby. Parce que dans le Tarn, on a une fierté et c'est le moment de nos Breaking News. Et oui, on l'a mis en Breaking News, mais on aurait pu en faire une émission entière. C'est le Festival Rugby Images. Donc, il a commencé ce mardi... à Albi, entre autres, avec une belle conférence sur le bilan du 15 de France. Alors, belle, pas par les résultats du 15 de France, mais par les intervenants. Hein. Je vous en donne deux, trois pêle-mêle. Richard Astre, Pierre Villepreux, Olivier Magne, mon idole d'enfance, entre autres. C'est, ça a de la gueule quand on voit ces genres de personnes au pupitre en train de disserter sur un sujet qu'ils maîtrisent du bout des doigts. Ça a pu donner quelques perspectives et puis quelques éléments de réflexion sur le gros chantier de la FFR, l'équipe de France, à quelques mois de la Coupe du Monde. Mais comme je dis, mieux vaut un bon schéma qu'un long discours. On va écouter le président de Rugby Image, du Festival Rugby Image, Claude Martin. On a à notre antenne une des personnalités maintenant importantes du rugby tarnais, Claude Martin est le président de l'association Rugby Culture et Passion qui organise le fameux festival Rugby Images. Monsieur Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce festival Rugby Images, en très peu de temps, c'est la cinquième édition, c'est devenu incontournable dans le monde du rugby. Et c'est un des événements qui fait date dans ce monde du rugby. Déjà, avant de revenir sur cette cinquième édition, comment est née et quelle était la genèse de ce festival et comment se sont déroulées ces cinq premières années?
Bon, c'est un peu compliqué. C'est une idée qu'on avait en tête depuis une vingtaine d'années. Il fallait trouver les hommes pour créer cette association et être intéressé par la thématique, quoi. Donc, du coup, ça s'est fait que en 2013, la création de l'association, voilà. Mais bon, l'idée était de parler du rugby, mais peut-être d'une autre manière, à travers justement l'aspect culturel du rugby, c'est-à-dire tout ce qui était photos, vidéos, écriture sur le rugby, débat pour parler de l'avenir du rugby. Enfin voilà, tout ça, c'était un petit peu le côté qui n'est pas toujours visible et qui existe pourtant à travers vos métiers, notamment le journalisme ou autre, quoi. Hein,
voilà. Bien sûr. Alors, quand même, associer culture, voire même art et avec la photo au sport, c'est assez rare et c'est peut-être pour ça aussi la réussite de Rugby Image vient de là, c'est que c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup en France et vous avez été un peu précurseur.
Oui, c'est-à-dire par rapport à la thématique du rugby, Évidemment, on est tout seul, je crois, en France à faire ça. Mais sur le sport en général, non, il y a d'autres festivals qui sont sur cette thématique, sport, cinéma, culture, mais sur l'ensemble des sports, pas ciblé sur le rugby uniquement.
Alors, on l'a vu, et dès la première année, ça a été quasiment une réussite totale. Ça a fait bingo d'entrée, il y a eu une réussite. Et puis maintenant, petit à petit, le festival est en train de prendre son rythme croisière et chaque année de progresser, d'élargir son champ d'activité et ses villes qui accueillent le festival. Comment cette évolution crescendo s'est mise en place ?
Oh ben, disons qu'on a... On souhaitait s'ouvrir au fur et à mesure, bon, sur les différentes villes qui ont un patrimoine rugby, on va dire, hein. Mm-hmm. Et bon, on a été évidemment très bien accueillis. Les choses sont faites lentement mais sûrement. Et aujourd'hui, bon, disons qu'on a on a intégré toutes les villes, quoi. Après, c'est vrai, on reproche toujours le rugby des villages, tout ça, oui. Pourquoi pas. Mais bon, on nous a même proposé d'aller sur Toulouse, à Paris. Mais bon. Et je veux dire, on voulait ancrer cette manifestation dans le Tarn, mmh. et pas en sortir. Donc, pour l'instant, bon, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être ce rugby des villages, bon, ça va nous titiller pour 2020, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, quoi.
Ça serait un beau clin d'œil, oui, le rugby des villages, parce que dans le Tarn, il y a des grands bastions, certains en péril, certains qui tiennent le haut du pavé, mais aussi des petits clubs qui font vivre cette âme du rugby.
Bien sûr, tout à fait. Du reste, on est beaucoup plus sur ce côté-là, sauf pour les débats, où effectivement, ce sont des débats généralement assez haut niveau, bon, avec des grands spécialistes. Donc là, on parle beaucoup de rugby, j'allais dire presque professionnel, mais mm-hmm. globalement, on est quand même dans toutes les autres actions sur le rugby amateur, quoi.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce festival Rugby Images, c'est qu'aussi il y a un volet histoire, avec jeudi une conférence sur le rugby pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, c'est... un secteur qui n'est pas trop médiatisé. L'histoire du sport, on voit des grands documentaires sur les grandes épopées des grandes équipes, mais là, ce côté vraiment historique sur des phénomènes de société, puisque la Seconde Guerre mondiale et le rugby, il y a une histoire assez profonde avec le 13, le rugby à 15, puis en plus avec un intervenant comme Robert Fassolette. Là, vous allez vraiment dans le cœur du sujet.
Tout à fait, oui. Bon, ça, on a mis en place cette partie réflexion historique depuis l'an dernier. L'an dernier, on avait fait un colloque sur le rugby et la Première Guerre mondiale, mmh. et donc qui avait bien marché. Et donc, on s'était dit, cette année, on va faire la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment très particulier, justement. Mmh. Savoir comment le Vichy s'est comporté par rapport au rugby à 15, par rapport au rugby à 13 notamment, puisque le 13 avait été interdit par Vichy. Enfin bon, là on voit un peu si le rugby était un sport plutôt de collaboration ou plutôt un sport qui s'est un peu démarqué de tout ça et qui était plutôt résistant, quoi, par rapport à Vichy, quoi. Mais on connaît maintenant la réponse, évidemment, hein, puisque les historiens ont travaillé là-dessus depuis longtemps, mais c'est vrai que ce n'est pas une histoire glorieuse du rugby à 15, quoi, la guerre 14, la guerre 39-45.
Oui, mais c'est tout à votre honneur aussi d'en parler. Il faut bien sûr parler du rugby, pas aussi que des moments glorieux, et parler de ces moments qui ont fondé aussi la société française et de cette problématique qui a traîné le rugby à 13 très très longtemps, hein, puisqu'on a vu que de ce côté proscrit qu'ils étaient par rapport au régime de Vichy, au régime pétainiste, ils ont eu du mal à s'en relever le rugby à 13.
Oui, mais bah, si on prend l'exemple albigeois, c'est vrai qu'il s'est relevé assez vite, hein, puisque le Racing a été rapidement après-guerre donc une très bonne équipe française, puisque avec les titres 56, 58, 60, 62, quoi. Enfin, le 58, je pense pas, mais 56, 60, 62. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu cette période qui s'est étendue jusqu'en 77. Mais le 13, bon, n'a pas eu des problèmes que liés à cette spoliation du gouvernement de Vichy. C'est aussi, il a eu du mal à s'exprimer, peut-être parce que ses instances n'étaient pas suffisamment actives pour le développer au moment où il aurait fallu le développer encore plus, quoi. Puis il a subi une guerre frontale avec Ferras, avec des tas de gens qui étaient à 15 et qui se sont imposés avec les médias, avec l'argent, avec tout, quoi. Voilà.
Ok. Alors, il y a un côté historique, un volet historique, mais il y a aussi un volet photographique où on a vu qu'il y a eu hier les remises de prix. Il y a eu aussi une remise de prix pour les confrères qui s'étaient inscrits pour les articles de presse. Vous pouvez nous donner un peu vos coups de cœur sur ces deux concours ?
Ah ben, pour l'instant, sur le concours de presse, on ne peut pas le dévoiler parce qu'il n'est pas encore du tout à... il n'y a pas eu de la délibération du jury.
D'accord.
Pour les concours photo, bon, on connaît évidemment maintenant les lauréats. La remise des prix a lieu donc à l'ouverture à Albi. Donc pour la photo, ben on avait quand même 400, on a reçu 488 photos du monde entier, émanant de 140 et quelques photographes, puisque chaque photographe pouvait présenter jusqu'à 4 photos. Hein. Et ça a donné lieu à une des récompenses qui était très espagnole et française, on va dire. Quoi, voilà, hein.
Avec un vainqueur qui avait été déjà vainqueur lors de la première édition.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais.
Donc, qui a refait talent,
des photos,
on va dire.
Alors bon, qui est espagnol, qui est aux Philippines, donc c'est un peu compliqué. Mais à chaque fois, il a fait ses photos sur le territoire néo-zélandais. C'est un homme qui voyage beaucoup pour faire de la photo, quoi. Autour de la thématique du rugby, bien sûr.
Alors, il reste maintenant quasiment une petite semaine de festival encore.
Ouais.
Quels vont être les moments forts qui nous attendent ?
Bon, ben, il y en a un petit peu tous les jours. Hein. Là, notamment cet après-midi, là, ce soir, enfin, à Lavore, on va avoir donc un débat intéressant sur la formation qui pose tant de problèmes aujourd'hui. Qui aura Didier Retière, DTN, le représentant de la Ligue de rugby, et Sébastien Piccheroni aussi, qui a entraîné les moins de 20 ans. Voilà, on aura des gens qui s'occupent des centres de formation du Stade Toulousain, du CO, qui vont participer à ce débat. Et puis, dimanche soir, on aura donc un magnifique film qui sera une avant-première presque mondiale, j'allais dire, puisque le film a été montré qu'une seule fois alors qu'il est, quoi. Et c'est un documentaire de Delphine Glaise sur, qui s'appelle Beau joueur, qui est en fait une histoire sur la descente un peu aux enfers de l'aviron bayonnais lors de la saison dernière, puisqu'ils sont redescendus en Pro D2, quoi. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'est toute cette année de galère en top 14 qu'ils ont vécu pour sans gagner le match. Et c'est très dur pour un entraîneur, pour un staff, pour les joueurs de tenir une saison entière sans gagner les matchs ou en prenant 40 points par match. Quoi.
Oui.
Voilà, donc c'est un documentaire très humain un peu sur cette vie. Il n'y a pas tellement d'images de terrain en fait à la évacuer tout ça. C'est plutôt images vestiaires, entraînement, des choses comme ça. Mais et surtout le problème de ces relations humaines qui se jouent dans le cas d'une problématique un peu difficile quoi pour une équipe quoi.
Ouais, elle a recentré le.
Après lundi et mardi, bon, on est très cinéma puisque là ça va finir mardi par une carte blanche à Canal+, c'est-à-dire qu'on aura Guillaume Garrigue qui vient présenter donc plusieurs films il aura la présence en plus de joueurs du CO qu'il a invité comme Cap Ortega. Dumora, Bati, voilà, donc ils seront présents. Il y aura un réalisateur justement de son équipe de Canal également. Ça, tout ça, c'est à Gaillac mardi soir. Et puis mercredi, on est à Grouillé pour un débat sur une problématique d'aujourd'hui du rugby, c'est-à-dire est-ce qu'en modifiant les règles, on peut diminuer, atténuer la violence sur les terrains, voilà.
Vraiment
donc là, on aura Joël Dumais, on aura donc des arbitres, on aura Fabien Pelousse à ce débat. Et on terminera à Castres jeudi par ce fameux colloque dont on a évoqué là sur le rugby et la Seconde Guerre mondiale, mais également un débat le soir sur les All Blacks. Qu'est-ce qui fait leur magie? Pourquoi ils ont une telle réussite? Quel type de formation ils mettent en place pour y arriver, etc. Quoi. Voilà donc et là seront présents un certain nombre de joueurs blacks qui pardon,
je sais pas si.
Qui viendront. Débattre de ce thème, quoi. Voilà.
Donc on peut dire qu'il y a eu une belle entrée, mais que le plat de résistance arrive pour...
Ah oui, bah c'est assez équilibré sur toute la semaine. Hein.
Tout à fait. Alors, deux dernières petites questions. On imagine que c'est un peu comme en politique, qu'une élection se finit, on prépare la suivante. Pour un festival, c'est pareil, quand une édition se finit, on prépare déjà le suivant. Vous avez déjà quelques pistes, quelques idées, un peu du rugby des villages?
Non, j'avoue que là, on est tellement dans le dur, là, qu'on ne se préoccupe même pas de ce qu'on va pouvoir faire l'an prochain. On sait globalement qu'on va refonctionner sur les mêmes lieux, peut-être il y aura des choses nouvelles, mais Après, sur les thèmes, je pense que c'est plutôt des thèmes d'actualité, donc il faut attendre un peu, il ne faut pas trop se précipiter. Après, quel film on mettra, quel expo... Des expos photos, il y en aura toujours, hein. Il y en a 10 cette année. Je pense qu'il y en aura un grand nombre l'an prochain aussi, donc il faut attendre, je crois qu'il faut attendre un peu. Se reposer, pardon.
Bien sûr.
J'ai un problème, là. Voilà, donc... mais il y aura un festival en 2020, hein, faut...
Allez, je voilà. Vous pose la dernière question parce que je vois que vous commencez un peu à manquer de voix. Quand il y a un festival comme Rugby Images, c'est aussi une armée de bénévoles. Hein. Vous pouvez nous dire un peu quelle est la structuration de cette association et peut-être faire un petit hommage à tous ces hommes qui se dévouent pour que vive le rugby et la culture sportive.
Alors, au sein de l'association, bon, on n'est pas hyper nombreux puisqu'on est 17 personnes. Donc, ces gens-là sont mobilisés à la fois dans la partie de la mise en place de la programmation, mais aussi la réalisation le moment venu. Mais il est clair que vu les actions, notamment tous les soirs, sur les repas, les choses comme ça, là on fait appel à énormément de clubs qui nous accueillent et qui eux ont une armée de bénévoles qui, je pense au Sporting Club Avigeois, Castres c'est le CO, Agroyer c'est le SDG, enfin à Labour pareil, enfin partout où on va, donc les clubs sont mobilisés et nous aident. Il n'y a pas que les clubs, évidemment, puisqu'il y a aussi le comité, la Ligue nationale de rugby, la FFR. Et puis aussi, on a quand même beaucoup de partenaires médias qui nous aident aussi. Enfin bon, il y a un petit peu tout ça pour arriver à réaliser ce festival. Ouais.
Toute une mêlée
beaucoup,
qui pousse.
Beaucoup de bénévoles des clubs.
Toute une mêlée qui pousse dans le même sens.
Oui, mais il vaut mieux. C'est ce qui manque aujourd'hui. On ne parle pas la même langue sur le terrain avec l'équipe de France. Donc. Et on sent qu'on pousse pas tous en même temps, résultat, ça fait quelque chose d'assez pitoyable. Mm-hmm. Et on sent que dès qu'il y a une vraie vie dans un club où les gens jouent avec le plaisir, le rugby n'est plus le même. Enfin, on voit les exemples aujourd'hui. Quoi. Mm. On a des clubs en France qui jouent un super rugby, et le même jour, à 2h d'écart, l'équipe de France fait n'importe quoi. Donc du coup, on peut se poser des questions. Enfin, qu'est-ce qui permet à un groupe de fonctionner correctement et arrive à faire de la performance sportive, sachant que c'est pas qu'un problème d'homme, c'est surtout un problème de formation, il y a des problèmes derrière, peut-être d'entraîneurs qui sont pas en mesure de donner une logique sportive à l'ensemble, à surtout à fédérer des hommes, à faire partager un projet, à donner envie de tout ça, parce que j'ai l'impression que les gars ils n'ont même plus envie de jouer, et ils ont aucun repère sur le terrain, enfin bon, tout ça c'est...
C'est une synergie à créer.
C'est une synergie à créer, et je pense qu'on peut la recréer facilement si on met les bonnes personnes au bon endroit, quoi.
Ben on va dire voilà. Qu'à Rugby Images, vous avez réussi à mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est
ben
une
oui,
belle
réussite. Enfin, bon.
C'est une belle réussite tarnaise, et on est fiers, nous, en tant que média local, de pouvoir parler de cette réussite tarnaise. Et comme qui dirait, que vive le festival Rugby Images et que vive le rugby.
Oui, ben écoutez, merci pour le. Et que vive le rugby, oui, effectivement. Ouais. Et le bon rugby surtout.
Tout à fait. Eh bien, on vous remercie, Claude Martin, d'être venu à notre antenne et vous êtes toujours le bienvenu avec le festival Rugby Images ou même pour nous parler de rugby parce qu'on sent la passion transpirer de vos pores.
Voilà, il faut la passion.
Bon, merci, monsieur Martin. À très bientôt à notre antenne.
Allez.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Après avoir écouté, comme je disais, notre fierté locale, le festival Rugby Images qui maintenant a un écho national, sur ce. Ce Maxport touche à sa fin et sera bien sûr réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et le www.le-mag-sport.com ainsi que sur le www.radioalbiges.com et réécoutable dans la nuit à 3h du matin sur nos zones 95.4 et le 104.2. Merci à mon ami Manu pour la technique comme d'habitude impeccable. On se donne rendez-vous pour les plus impatients. Dimanche 24 mars à 14h45 avec Vincent Clément, Samuel Faux et Arnaud Schmitt pour vous faire vivre ce trépidant Saint-Jean-de-Luz Sporting Club albigeois. Et pour les plus patients, on se retrouve mardi à midi pour le débrief de ce week-end sport où la SPT va aller aussi en Lorraine et jouer à midi face à l'AS Nancy Lorraine. On aura un menu assez riche où on parlera aussi de l'Amigale, le club de foot du séquestre et de bien d'autres surprises avec par exemple le cyclisme et le Tour du Tarn cadet. Allez, je vous dis vive le rugby, vive la Fédérale 1 et à des chiasses.
Au
volo corso da un pasto da mare, nostra antenna di lingua si muore, lo sono strane di campa, senza riorte smariscerà.
Vai da Nereria, vai na Nesquara, peti bisida, Nesqualdura chissà na idugu, Nesquara che c'è na idugu.
Sì.
Sino all'arma di libertà.
C'è chi, e na che c'è a, orra di bili, garra mi dea, naure curecchine rianezza, e scu, a scatta sulle da.